y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
RMC, Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, qui est là. Vous savez qu'il y a le RMC Poker Show dans la foulée de cet after, bien entendu.
Bah, c'est pas pour ça que Daniel est là. Il est là, plus souvent que... Bon, t'es en train de nous faire croire qu'il est là parce qu'il y a le RMC Poker Show.
Derrière, je tease.
Ah non, mais si tu commences comme ça, moi,
je fais du teasing. Vous voulez le vivre. La victoire de Lyon ce soir, 3-0 face à Monaco. Lyon qui est 3ème de Ligue 1 à l'issue de cette 18ème journée. Monaco qui reste relégable. Cet après-midi, victoire de Lille à Nîmes 3-2. Les Lillois qui ont longtemps joué à 10 contre 11. Les Lille Dogs qui terminent 2ème de Ligue 1 cette journée. Et puis le match nul entre Nice et Saint-Étienne. Je donne quelques résultats à l'étranger également. Arsenal a perdu après une série de 22 matchs TCC sans défaite à Southampton, relégable 3-2. La victoire de Chelsea 2-1 à Brighton. Le derby d'Angleterre, la victoire de Liverpool 3-1 face à United. En Espagne, Séville a battu Girona 2-0. 4-0 pour le Barça face à Levante. En Italie, le Napoli a battu Cagliari 1-0. Et puis la Roma a battu le Genoa 3-2. Et puis petit big up, Cocorico aussi. Les Françaises, championnes d'Europe de handball, victoire face à la Russie.
J'ai kiffé moi.
Il va me dire ça à chaque fois le
mec. Bah ouais, bah attends. T'as regardé
5-0 le Barça en fait.
Non, t'as pas.
Il y avait Liverpool, Manchester United et un match de Ligue 1 si ça t'embête pas.
Ah, moi, bah ça, bah non, mais.
Ça t'embête ou pas?
J'ai kiffé le hand.
Non, mais si ça t'embête pas.
À la télé la première mi-temps, à la radio la deuxième.
Si ça t'embête.
J'ai adoré.
Et si tu préfères regarder du hand féminin.
D'ailleurs, c'est mon troisième point, moi, aujourd'hui. C'est la victoire des filles.
Mais Liverpool, Manchester United, excuse-moi, c'est un.
Puis il n'y a pas de match, quand même. Il n'y a pas de match. Manchester, ah oui. Bidon. Pff,
oh, bah, tiens. T'as quoi? Peut-être que ça fait partie de 3 points, d'ailleurs, plus ça.
Non.
Si,
non,
les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Bah, tiens, tes 3 points, Daniel.
Mon premier, c'est pour parler de cette victoire de l'OL. J'ai trouvé l'OL très tranquille. Et. Pourquoi, certes, il y a une raison, c'est peut-être que Monaco est complètement à la rue, on verra ça plus tard, mais c'est aussi, c'est mon deuxième point, parce que je crois que l'OL est complètement libéré, a beaucoup gagné en confiance avec ce qui s'est passé cette semaine, et avec ce que j'ai pas mal de fois dit cette semaine, à savoir que je pense que d'ores et déjà leur saison est aboutie. On en a parlé cette semaine, on pourra peut-être en reparler. Et mon troisième point, bah oui, sur Monaco, parce que Monaco c'est le néant avant le naufrage. Qui sait, peut-être, même si ce sera plus simple pour eux contre des petits adversaires, c'est possible. Et puis, il va quand même falloir s'interroger sur ce que fait Thierry Henry depuis qu'il est arrivé. Parce que là, moi, je trouve que c'est pas loin d'être lamentable, quand même.
Pierre, tes 3 points ce soir.
Premier point, la SM. J'ai même pas envie de parler qu'effectivement, dans le jeu, on note aucune différence, que ça n'évolue pas, etc. Moi, j'ai juste envie de parler de l'attitude des Monégasques en première période. Allez, même si on oublie la seconde où ils sont à 10, etc. La première période, quoi, il n'y a pas un duel de jouer, ça recule sans arrêt. Enfin, voilà, j'ai vu des Monégasques vraiment en difficulté. De l'OL, c'est ce qu'on disait pendant le match, et je te rejoins, Daniel. J'ai l'impression... pas seulement que l'OL est dans une bonne dynamique, mais qu'ils ont passé un cap au niveau de la régularité et qu'ils ont compris ce qu'était l'exigence d'être une grande équipe. En tout cas, plus que ce qu'ils faisaient les dernières saisons. Et puis le troisième, c'est Nîmes-Lille, parce que j'ai regardé ce match quand même et je me suis régalé, et notamment avec Pépé, on en reparlera, je pense.
Et ben, je vous donne mes 3 points également. Ben, je vais commencer par le match qui vient de se terminer. Moi, c'est la faiblesse mentale, surtout, moi, de Monaco. On les a vus dans les intentions.
L'attitude, c'est ça, moi. C'est ce
que l'attitude, voilà, exactement. Dans les intentions, Thierry Henry sur le banc, on en a parlé pendant le match, mais parfois agacé, contrarié. Au-delà du fait que c'est vrai, on voit pas franchement, voire pas du tout d'évolution depuis qu'il a repris cette équipe, qui était certes au fond du trou, mais il y a...
C'est presque pire, en fait.
Ouais. On va y revenir.
Parce que bien, il n'y a pas du tout de déclic, il y a rien.
Deuxième point,
se passe rien du tout.
C'est Lille, moi, qui est deuxième, qui pour le coup a aussi longtemps joué à 10 contre 11, mais qui s'est quand même imposé à Nîmes, en plus. Et puis mon dernier point, alors c'est un petit teasing pour demain parce qu'on n'en parlera pas ce soir, mais c'est ce derby d'Angleterre, ce match entre Liverpool et Manchester United. C'était un spectacle extraordinaire. Alors c'est vrai que United est méconnaissable cette saison, mais alors quel match, quelle intensité, vraiment. Et un Liverpool qui est leader de Premier League, qui a repris cette première place et qui est franchement.
Quel Liverpool, ouais.
On y va pour Lyon-Monaco, victoire 3. 3-0 de l'OL il y a quelques instants face à Monaco. Aouar, premier buteur à la 6e, Fekir à la 35e, Mendy qui a marqué le 3e à l'heure de jeu. Alors un match qui a été marqué aussi par l'exclusion de Golovin en tout début de seconde période. Il s'est essuyé la semelle sur le mollet de Nabil Fekir. Après consultation de la VAR, il a été exclu, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement dans le match de ce soir? Toi tu disais, Daniel, tu sens que cette équipe de Lyon est en confiance, mais c'est vrai qu'on peut faire le constat totalement inverse pour Monaco du coup.
Monaco c'est
autre chose. Monaco, ça ne dépend pas du match de ce soir, leur problème.
Mais ce que Nico veut dire, c'est que la performance des Lyonnais pourrait être rendue possible par la faiblesse des Monégasques, c'est ça?
T'es obligé de relativiser un peu, c'est clair.
Mais ça, ok, mais...
Ouais, mais non, parce qu'il y a des matchs, à mon avis, où l'OL serait tombé contre des équipes comme ça, où ils n'auraient pas fait ce genre de match, à une époque.
Je suis pas sûr l'OL soit tombé contre une équipe... parce que même quand ils ont du mal contre les petites équipes, c'est des petites équipes qui ferment le jeu. C'est là où ils sont emmerdés, les Lyonnais, ils aiment pas trop ça. Là, Monaco, étant donné qu'ils ne font rien, ni ils ouvrent, ni ils ferment, ni ils se placent correctement, ni ils font, à la limite...
S'il met
un autobus, c'est presque déjà au moins une tactique. Là, il y en a pas du tout. Mais néanmoins, Lyon, en marquant vite, en réussissant à peu près tout, même si effectivement, quand t'as les espaces, c'est plus simple, quand t'as personne qui vient te disputer les duels, évidemment que le football est plus facile. Ils l'ont fait, ils ont gagné une victoire propre, mais ça n'enlève pas quand même. Je pense que Lyon, et c'est souvent leur problème, la première partie de saison est toujours une galère. Enfin, toujours. Souvent une galère pour les Lyonnais. Je crois que c'est un club où, et c'est normal, dans tous les grands clubs, il y a de la pression, et généralement, ils l'évacuent dans la deuxième partie. Soit parce que, c'est souvent en fonction de la Coupe d'Europe. Soit, quand ça se termine plus tôt, après ils sont plus libérés.
Ils misent tous sur le championnat, quoi.
Voilà. Libérés, ou alors, ils se disent. Voilà.
Ou alors c'est un moteur, ça que tu veux dire.
Oui, voilà.
C'est souvent en parallèle à ça que leur début de saison ou ce qui se passe dans la saison se fait. Quand ça se termine, après ils enchaînent que des victoires. Quand ils l'ont dans les pattes et qu'ils y pensent, qu'ils sont pas sûrs de se qualifier, ça les emmerde, ils avancent pas en championnat. Là. Je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'ils avaient la pression parce que tout le monde savait et je pense que personne, évidemment moi le premier, les aurait loupés s'ils n'étaient pas sortis de ce groupe. Ça aurait été une contre-performance. C'est leur retour en Ligue des Champions après des années en huitième de finale. Quand je dis retour en huitième après de longues années. C'est une vraie satisfaction quand même pour le club. C'est important. Ils y sont. Je pense que ça a libéré beaucoup de monde au club. Je pense que là maintenant, on a plutôt compris que ça jouera tout le temps à trois derrière, qu'il a trouvé qui mettre dans les couloirs à droite à gauche. L'équipe, elle est plus ou moins dessinée comme ça maintenant, avec variante, est-ce que c'est Traoré qui joue ou pas, ou est-ce que Fekir joue seul avec un attaquant qui est Memphis, mais bon, c'est deux, trois petites retouches. Je pense que là, Lyon est parti, et comme je disais, et je le redis, leur saison, elle est déjà bouclée pour moi. Parce que Ligue des Champions, ils ont 6 chances, je sais plus c'est quoi la proba, mais en tout cas, énormément de chances de tomber sur un gros, et personne leur en voudra s'ils se font sortir.
Après, il faut quand même accrocher le podium en Ligue 1. Ça reste serré,
Non. Si.
Pour l'instant, ça l'est en tout cas. Là, ils sont troisième ce soir.
Dans cette Ligue 1, Lyon ne peut pas avoir de problème.
Ils ne peuvent pas avoir de problème. Deux points d'avance sur Montpellier.
Mais ils ne peuvent pas avoir de problème.
Et là, ça rejoint un peu ce que moi je pense. Si jamais,
faut être sérieux,
si jamais c'est vrai, moi je pense que cette Ligue des Champions et cette qualification aura servi aux Lyonnais à comprendre certaines choses. Peut-être que je me trompe, peut-être que dans 3 semaines on dira l'inverse, mais je pense pas. J'ai l'impression, tu vois, le match, même contre des Monégasques qui sont apathiques, qui sont dans leur surface de réparation, parfois ils étaient alignés à 7 ou 8 derrière en première mi-temps.
Oui, mais alors des alignements, on en a vu des meilleurs, parce que c'était un alignement avec
ils étaient alignés sans jouer un duel.
Alignement avec des trous partout.
Ils étaient alignés sans jouer un duel, c'est ça qui était terrible.
C'est ça qui est fou.
Ouais, mais même comme ça, les Lyonnais auraient pu tomber dans une facilité, mais non, ils ont continué à vouloir, en première période, à mettre de l'intensité, à faire des redoublements, à jouer. Alors, ils ont compris que c'était eux, sans s'occuper des autres. Et ça, c'est peut-être une différence avec le Lyon d'il y a quelques mois.
On parlait de la Ligue des Champions. On vous rappelle que le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions et des 16e de finale de Ligue Europa, ce sera demain sur RMC Sport 1 à partir de midi. Ce sera à suivre ici aussi. On accueille Nicolas, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Nicolas.
Salut l'after.
Bonsoir Nicolas.
Bon alors Nicolas, soirée tranquille ce soir pour les supporters de l'OL.
J'ai envie de dire match d'entraînement et c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous dites dans le sens où pour moi Lyon a déjà fait le plus gros de sa saison et puis cette qualif européenne qu'on attend depuis des années et qui crispait le public comme les joueurs, je pense que le fait qu'on soit qualifié ça libère les têtes et puis même on a même envie de se prendre le Real pour une fois qu'on a envie de jouer un gros juste pour le plaisir de le jouer, peut-être de le gagner mais surtout pour le jouer, ça change beaucoup de choses pour ce club qui maintenant Maintenant, ils vont prendre ce qui vient comme du bonus, comme du plus, parce que la saison, elle est déjà réussie. Avec une petite coupe nationale, peut-être, ça serait parfait, quoi.
Donc ça veut dire.
Oui, non. Alors, c'est vraiment tranquille. Enfin, là, pour le coup, j'ai regardé un match en sachant qu'on a. Bon, déjà, Monaco nous réussit souvent, mais c'est vrai que c'est la première fois.
Je pense que c'était le match le plus peinard de l'OL depuis le début de la saison.
Parce qu'il ne faut pas être cardiaque pour suivre ce club-là, même dans des matchs insignifiants, mais là, pour le coup, j'étais. Enfin, dans mon canapé, en regardant une logique s'appliquer, c'est vrai que ça fait du bien de voir la logique être respectée pour une fois.
T'as pas cette impression, toi, que justement cette qualification, ce parcours européen, plus que la qualif, ce parcours européen peut faire progresser l'OL justement sur ce genre de match, ceux dont tu viens de parler, là où on pouvait trembler contre n'importe qui avant. T'as pas l'impression qu'il y a un progrès là-dessus, toi? Tu notes pas un changement d'état d'esprit? Moi, je vais revenir à Depay, hein, Daniel. On en avait un peu parlé. Tu m'avais dit qu'il avait pas été bon contre le Shakhtar. Je trouve que le changement d'état d'esprit de Depay symbolise vraiment ce changement d'état d'esprit des Lyonnais, moi.
Non, mais déjà, si Lyon joue la Ligue des Champions, ça veut dire qu'on a des joueurs qui vont être concernés par le projet du club et qui ne seront pas là que pour avoir un tremplin pour faire autre chose. Parce qu'on pouvait se dire au début que Depay pouvait être là, mais ne voulait pas être là parce qu'il estimait qu'il devait être ailleurs. Mais là, du coup, il y a vraiment quelque chose à jouer collectivement et chacun va vouloir.
Ah, s'il n'y avait pas eu la qualif, ça cassait un paquet de trucs, ça c'est sûr.
Bah voilà, ça foutait vraiment le
c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pression.
Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, tout le monde a vraiment un but commun. Il faut à la fois se montrer pour plus tard et puis il faut continuer à faire monter le club. Donc là, il y a vraiment plus rien à perdre, quoi. Il y a que du plaisir à prendre.
Il va y avoir un tirage qui peut être excitant. Où il faudra. Alors, effectivement, il y a, je pense, la grande majorité des tirages, on dira l'adversaire est supérieur. Maintenant, ça ne voudra pas dire qu'on n'aura pas le droit d'attendre une performance des Lyonnais.
Monaco a bien
fait demi-finale et la première année quand ils ont tapé Arsenal, on s'y attendait pas. On a le droit à s'attendre d'un club de la dimension de Lyon avec ses moyens que même si c'est un gros, bon, il y en a certains, ça va sembler un peu fermé. Je sais pas, si tu prends le Barça, ça semble un peu plus. Après, le reste, attends, oui, ok, tu seras pas favori, mais on a le droit d'espérer la performance. Je rappelle justement la dernière fois qu'ils y étaient allés, enfin plutôt la fois d'avant, contre toute attente, ils avaient sorti le Real. Et ouais. Je parle pas d'un match de poule, je parle d'un huitième. Donc et ça avait été un des plus beaux matchs de l'OL en Coupe d'Europe.
Mais Nicolas, justement, alors t'auras la réponse demain midi, mais t'aimerais quoi, toi, un gros ou plutôt une équipe accessible entre guillemets? Alors même si Genesio a dit ils peuvent tomber sur Porto par exemple, qui paraît être peut-être l'une des équipes les moins impressionnantes.
Bah, c'est le seul où tu te diras au début. C'est plutôt Lyon qui est favori.
Voilà. C'est presque du 50-50.
Même si, attention, ce sera loin d'être fait, hein.
Attends,
rappelle,
Porto. Hein, c'est l'équipe qui a le plus de points lors de la phase de groupe.
Ouais, non,
ils
battent
leur record, etc.
Moi, je pense que ce sera pas fait, mais c'est les où on dira bon, bah là, forcément, t'as plus de budget, t'as plus de moyens. Normalement, tu dois t'en sortir.
Nicolas, tu préfères quoi, toi?
Après, je pense que si on tombe sur Porto, c'est le moyen de mettre les Lyonnais dans leur mauvais rôle, parce qu'on les attendra plus. Contre eux, c'est le genre de match où ils peuvent se recrisper, alors que tomber sur une équipe plus prestigieuse, mais peut-être un peu malade, comme le Real en ce moment, qui est un peu aléatoire, c'est faisable de les ressortir encore une fois en huitième, pourquoi pas réécrire l'histoire. Ouais, moi, le Real, je prends.
T'as le droit de rêver à ça, évidemment que c'est, oui, c'est pas simple, surtout que n'oublie jamais que le Real de l'automne n'est jamais le Real du début du printemps. Hein.
Ouais, c'est clair.
Mais bon.
Merci d'avoir été avec nous, Nicolas. Bonne soirée à toi, Nicolas. Salut, à très bientôt, Nicolas. Alors il y a beaucoup beaucoup de messages, sachez-le. Alors depuis le match, même pendant le match, sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio, Thierry Henry. Alors voilà, il y a beaucoup de critiques à l'égard de Thierry Henry. Beaucoup de supporters de l'ASM, pas que des supporters de l'ASM d'ailleurs, disent depuis qu'il est là, finalement il n'y a pas d'évolution dans le jeu. Son attitude sur le banc, bon bah voilà, on a l'impression que parfois il s'agace des performances de ses joueurs, comment ses joueurs peuvent le percevoir, certains qui sont très jeunes, etc. C'est vrai qu'il commence à y avoir des interrogations autour du travail de Thierry Henry.
Il faut quand même dire que le gars est arrivé en octobre, c'est ça?
Oui. Avec l'équipe, il était pas bien du tout.
Il était quand même absolument normal, étant donné le chantier, ce qui s'est passé, les départs, la reconstruction après un entraîneur qui était là depuis longtemps, qui avait installé des habitudes forcément de travail, de management. Il était mais évident qu'il fallait attendre.
Le vrai départ, c'est après le mercato de janvier.
Tu pouvais pas. Maintenant, attends.
Mais il faut pas qu'il prenne trop de retard.
Voilà, attends.
À tous les niveaux, hein, pas que.
Évidemment que tomber sur Thierry Henry n'a pas de sens comme ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas le temps, il y a tout ce que je viens de dire. Maintenant, il y a quand même, au moins deux trois questions qu'on peut se poser quand même. C'est effectivement les mecs ne semblent pas jouer, c'est-à-dire comme tu disais, ils gagnent pas un duel et tout ça. Je vais te dire, il y a même pas besoin d'être un grand entraîneur. Tu dis aux mecs, les duels, vous rentrez dedans ou pas?
Bah, c'est souvent le truc de base même.
Bah, c'est le truc de base.
Le choc psychologique.
Tu repousses un peu, tout. Bon, ça, même ça, il y a pas. Est-ce qu'avec ces joueurs-là, tu vas quand même t'en sortir parce que tu iras gagner les matchs? Bah, le prochain, c'est contre Guingamp. Et puis, récemment, ils ont battu Amiens et ils avaient un autre match facile,
même,
là.
La victoire d'Amiens, tu l'as vu, le match, Daniel.
Oui, non, mais.
C'est un miracle.
Mais moi, je te parle pour s'en sortir.
Ouais.
Peut-être qu'ils gagneront ces matchs-là qui leur permettent.
Il y avait rien, quoi. Je veux dire,
ils vont leur permettre de finir d'être 17e, tu vois, parce que, voilà. Mais bon. Rien n'est fait quand même, mais c'est,
non,
mais c'est possible. Parce qu'en fait, pardon, dans le match de ce soir, le truc, c'est que Monaco ne joue pas comme une petite équipe. C'est-à-dire contre une équipe qui viendrait, qui met l'autobus, qui blinde et tout, et qui emmerde.
Et puis qui se bat.
Qui peut emmerder
et
tout.
Pour gagner ses duels dans les 30 derniers mètres.
Et en fait, ils essayent de jouer comme une vraie équipe, sauf qu'ils en sont à des années-lumière. Parce qu'il y a rien qui, il y a rien. C'est le néant. Mais ils essayent justement de pas faire la petite équipe qui bétonne. Voilà, mais il y a rien. Après, là où il y a dans les messages des choses qui sont vraies et que je commence à noter, la question peut se poser, je ne dis pas que c'est une conclusion, il y a eu pas mal d'anciens très grands joueurs, parce que Thierry Henry est un ancien très grand joueur, pas grand joueur, très grand joueur, qui ne deviennent pas bon entraîneur. Parce qu'ils n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils savaient. Zidane l'a réussi. C'est une affaire de caractère, une forme d'humilité qu'il faut, de comprendre que le mec ne sera pas aussi bon que
toi. Mais c'est une affaire de club aussi. Je veux dire, Zidane, il arrive dans un club qui est pas relégable.
Non, c'est une affaire.
Daniel, c'est pas pareil.
Tu vas pas demander à Thierry Henry de faire effectivement ce que
Zidane a fait. Non, mais il fait pas son mercato, tu l'as dit toi-même, il a pas un effectif.
C'est pour ça qu'on verra la suite. Mais je te dis, là, sur certaines choses qu'on voit, et le point d'interrogation que tu peux juste poser, c'est que, être un très grand joueur, ça veut pas dire t'as des mecs qui n'arrivent pas à comprendre que le gars ne fait pas
ce que toi tu faisais et tout.
Platini en était incapable, ne dirigeait pas pour le peu qu'il a été sélectionneur, ne dirigeait pas les séances parce qu'en gros, bah, voir qu'un mec faisait pas ce que lui était capable de faire, il avait pas l'humilité de comprendre que c'était ça.
Il comprenait pas.
Marco Van Basten l'a avoué. A avoué que pour lui c'était il l'a dit dans il a voulu devenir entraîneur, il a vraiment tout fait et tout, mais quand il y était au bord du terrain, ça passait pas. Et Henry, je lui vois parfois une attitude un peu de désolation.
Mais tu sais ce qu'on
genre,
a dit pendant le match,
qu'est-ce que c'est que ces branques?
Non mais tu sais ce qu'on disait aussi,
il a
tu sais ce qu'on s'est dit pendant le match,
et ça peut, je dis pas que ça sera, je dis ça peut être un problème
pendant le match. Le cousin disait on le sent, ouais, le cousin, on est cousin. Alors, Nicolas Villas, monsieur Villas disait que il paraissait énervé, et je lui disais non, moi le pire c'est qu'il me paraît même pas énervé, c'est qu'il me paraît désabusé. Ouais,
je dis plus agacé. Moi
il y avait parfois sur son faciès des images où il se disait effectivement, mais comment ça se fait qu'ils arrivent même pas à faire ça, quoi.
Mais c'est pour ça que je te dis qu'il est agacé, moi je te dis dans ce sens-là.
C'est l'étonnement de sa part, de dire, mais si tu sais pas faire ça,
différence, Nico, quoi, par rapport à ce que tu disais de Zidane. Zidane, lui, il a des très bons joueurs. Donc déjà, mais en plus, je pense que Zidane est quand même quelqu'un d'humble, à la base. Soit même, non,
il l'a fait avec une équipe.
Zidane avait été un joueur génial, mais c'est quand même un mec plein d'humilité. Après, tous se sont pas. Henry, il l'est pas tellement. Bien moins. Ça enlève pas que c'était deux très grands joueurs, hein. Mais il avait que des grands joueurs. Donc à la limite, c'est lui, on l'attendait plus sur le management.
Ouais, c'est ça.
Sur être capable de gérer l'ego.
C'est difficile à comparer.
Oui, t'as raison. De gérer Cristiano Ronaldo, de gérer machin, de réussir à faire cette alchimie là.
Et tu vois un Thierry Henry avec ce type d'équipe pour faire la même
chose ? Non, je n'en sais rien en fait.
On en parlait justement, et c'est pour ça que je te disais, moi, il aurait peut-être fallu qu'il démarre avec plus
du
gros.
Lourd.
Ouais, avec du lourd. Mais parce qu'il aurait, il y aurait eu cette confrontation avec, tu vois, Dégout un petit peu. Et peut-être qu'il est plus fait pour ça qu'avec des plus jeunes où il va avoir du mal à comprendre que tout le monde ne peut pas faire comme lui.
Vieira est confronté.
Ah, mais c'est pas le même personnage, Vieira. Enfin, c'est pas la même personnalité.
Il est dans l'empathie à mort.
Ouais, c'est pas la même personnalité.
On le voit même sur Balotelli, etc.
Moi, je vous ai dit, vous laissez pas finir les phrases. Je vous dis, il est confronté au même problème dans le sens où il arrive et il démarre et il a des problèmes d'ego. Il a des problèmes à gérer avec Balotelli, avec Saint-Maximin. Lui, qui était un mec qui se mettait au service de l'équipe, qui était un très grand joueur, un grand professionnel, il doit aller dire au mec, putain, tu veux pas essayer de donner la balle de temps en temps, d'arrêter de dribbler tête baissée, et à l'autre d'essayer de se bouger le cul.
Ça, c'est un autre type de problème.
Comprendre
que tout le monde n'est pas aussi professionnel que toi.
On parle de très grands joueurs qui doivent venir en Ligue 1 pour entraîner des mecs.
Mais souvenez-vous
qui sont loin de tout ça.
Souvenez-vous du discours.
Est-ce qu'il sera capable? C'est pas sûr.
Souvenez-vous du discours de Roberto Martinez Martinez. Alors c'est vrai que c'était un autre poste. Hein. Il était T3 comme ils disent en Belgique, c'est-à-dire adjoint de l'adjoint.
Et ça n'a rien à
c'est
voir.
C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis. C'est pas pareil. Puis entraîneur adjoint de Roberto Martinez en Belgique, il côtoyait des grands attaquants au sein de la sélection belge. Et c'est vrai que les échos qu'on avait, et d'ailleurs il y a pas mal de joueurs belges qui le disaient, il avait très bon rapport avec les grands joueurs justement. Pour en venir à ce que tu disais.
Ouais, mais pour aller parler à Eden Hazard, pour faire progresser Lukaku en sélection, c'est pas la même chose.
Pas pareil,
parce que tu vas voir les mecs individuellement. Tu lui dis tiens, tu fais ci,
et
ça. C'est
des grands joueurs.
C'est pas la même chose. Ouais.
Voyons ce qu'en pensent les supporters de l'ASR. On est très curieux de vous entendre là-dessus. On vous attend en 32-16. On rappelle, hein, victoire 3-0 de Lyon ce soir face à Monaco. Monaco qui est avant-dernier de Ligue 1. On accueille Mathieu, supporter Molégas, qui est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Mathieu.
Et bonsoir les amis.
Bonsoir Mathieu.
Salut. Alors qu'est-ce que tu penses de ce débat, Henri, toi ? Est-ce que t'es critique finalement ? Est-ce que t'as envie de le défendre, Thierry Henry ?
Moi, ce soir, je vais pas le défendre. Par contre, je suis toujours pour que ce soit notre coach cette année, parce qu'il est en apprentissage et qu'il a le droit de faire des erreurs. Moi, pour moi, ce soir, sa compo, elle est pas bonne. Tout simplement parce qu'il va à Lyon, il est déjà résigné à perdre le match, clairement. Il y va pour défendre. Il sait très bien qu'il va perdre ce match en mettant Radji à droite, Henrich à gauche avec une charnière à 3. Derrière, tu ressors Jemerson encore et encore Jemerson. Et puis, tu joues avec deux milieux de terrain qui sont un peu tendres. Et tu mets Falcao seul en pointe avec un pauvre Glovin qui est toujours perdu en Ligue 1. Ben, bien sûr, tu vas perdre le match. Donc, ouais. Moi, à la limite, quitte à me prendre une branlée, j'aurais fait une équipe un peu plus offensive et j'aurais essayé d'apporter quelque chose. Un 4-4-2, par exemple, avec un Falcao un peu moins seul devant, quitte à mettre Silla, même si je suis pas très fan de joueur, mais au moins, qui lui apporte un soutien offensif.
C'est vrai qu'il devrait faire dans le plus basique. Il devrait mettre les lignes. Et c'est effectivement, dans ces cas-là, à la base, c'est un peu le 4-4-2, ce que t'occupes bien la largeur. Tu mets deux lignes de 4, deux mecs devant, soit l'un derrière l'autre, soit les deux à côté. Il faudrait qu'il fasse plus basique. Défense à 3, deux mecs dans les couloirs. Quand en plus, tu mets Radji, qui est quand même complètement bouilli, le pauvre.
Non, et puis surtout, Radji, il est incapable dans ce...
Mais dans le système, tu peux pas mettre...
Quand t'es à 5 parce que tu défends, il peut à peu près le faire. Mais quand tu passes à 3 parce que tu dois attaquer, il peut pas monter d'un cran, Radji. C'est fini, il ne sert plus à rien.
Après, je me mets dans la tête de Thierry Henry, je me dis, bon, ok, je sais que je vais perdre à Lyon, donc je fais ça, très défensif.
Je limite
les gars. J'essaie de pas prendre une grosse tôle pour éviter de prendre un énorme coup.
Ça change quoi? T'en prends 5, t'en prends 3.
Ouais, voilà, c'est ça, ça change quoi? Mais lui, dans sa tête, je pense qu'il se dit, il y a le match la semaine prochaine contre Guingamp. Mes joueurs, il faut pas
non plus. C'est celui-là qu'il faut gagner, hein, avant les vacances, hein.
Ouais. Mais dans sa tête, il doit se dire ce soir, mes joueurs, il faut pas qu'ils se prennent 6 ou 7-0 et perdre la confiance, justement, et se retrouver contre Guingamp et être perdu parce que on s'est pris une volée la semaine dernière. Donc lui, pour lui, en fait, je pense qu'il a clairement voulu, enfin, il savait clairement qu'il allait perdre ce match et il s'est dit, je vais bétonner. En fait, après, le carton
ça,
rouge,
ça, c'était du béton, ça. C'est la maison de paille et des trois petits cochons, là.
C'est clair, mais c'est bétonné avec ce qu'il a, malheureusement.
Mais Mathieu, parce qu'on parle du match contre Guingamp, ça, alors Guingamp est dernier avec 5 points de retard sur Monaco, qui est donc avant-dernier. Mais c'est vrai que Guingamp, alors ils ont changé d'entraîneur aussi, Gourvenec est arrivé, les résultats sont pas encore là. Mais c'est vrai que franchement, on parlait d'attitude tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose quand tu vois Guingamp.
C'est la question que j'avais posée à Mathieu. Est-ce que toi aussi, t'as cette sensation que les mecs n'ont même pas envie d'aller jouer les duels, quoi?
Très clairement, je vais vous le dire, sur les 20 équipes de Ligue 1, la seule qui joue pas au football et qui en fait panique dès qu'ils ont la balle dans les pieds ou qui panique dès qu'il y a un débordement sur les côtés de l'équipe adverse, c'est Monaco. Il y a aucune équipe qui joue comme Monaco. Aujourd'hui, Monaco, les joueurs ont peur. Ils font pipi dessus.
Il faut juste faire attention à ce que les mecs se démobilisent pas parce qu'ils savent que de toute façon ils peuvent se barrer. Bah
là, la première
ou
période,
parce que Monaco, pas grand monde te met la pression. Là. Parce que même dans un club comme Guingamp, il y a toujours un mec qui va venir te voir pour dire, bon, même s'ils sont à la ramasse, mais on va parler Amiens, c'est ces genres de petits clubs là. Il y a toujours un mec à un moment qui va dire, ah, les gars, faut se battre pour le club, il faut se battre pour machin, mais parce qu'ils vont perdre leur taf. Faut battre pour le club, il faut se battre pour ma. À Monaco,
la pression, faut te la mettre toi-même.
C'est pas un club qui joue le bas du classement, quoi. Tu vois, Monaco, c'est pas un club de la baston, quoi. C'est plus compliqué.
Je vous dis, j'ai hâte du retour de Ronny Lopez parce que c'est un joueur qui nous a apporté énormément. Pietro Pellegrini, lui, c'est un joueur pour faire jouer justement avec Falcao en 4-4-2 parce que c'est quelqu'un qui apporte énormément de soutien en profondeur. En plus, il joue un espèce de rôle pivot où il bloque les ballons, il fait remonter son bloc, etc. Enfin, il y a des joueurs, quand même absents depuis le début de la saison et ça nous pose d'énormes problèmes.
Mais il reviendra. Hein. Il va revenir cette année.
Qui, Pietro Pellegrini?
Ouais, elle était pas un peu grave sa blessure?
C'est une blessure en fait. Ce mec-là, il a l'air un peu fragile en fait. C'est un peu Verratti 2, quoi. J'ai l'impression parce que on va dire que dès qu'il se pète, ne serait-ce qu'une petite blessure, ça, il en a pour 3 semaines. Finalement, ça dure 3 mois. Donc, je sais pas. Après, là, ils ont
Il est surtout très jeune et il veut griller les étapes, quoi. Il veut aller très, très vite.
Après, là, ils ont changé le staff médical cette semaine. L'AS Monaco, ils ont pris un préparateur physique, apparemment. Un mec, je sais pas, qui courait le 300 mètres en 10 secondes. Là, j'en sais rien. Bah, et du coup... pour Radji, ça peut être pas mal. Mais je pense que voilà, en fait, ils essaient de tout changer et ils essayent surtout de récupérer leurs blessés au plus vite. Mais après, il faut pas non plus griller les étapes, comme t'as dit Daniel. Si un mec il a une pubalgie et que tu essaies de le récupérer au bout de 3 semaines alors que ça demande 3 mois, ben le mec il va se répéter. Moi, je pense qu'il faut agir au mercato d'hiver, prendre des mecs pas forcément des stars mondiales, mais prendre des mecs qui peuvent te sauver le club. Des mecs, j'en sais rien, moi, comme les anciens à l'époque, Florent Balmont, tu vois, des mecs comme ça, des tauliers que tu mets sur le terrain et qui se battent pour l'équipe et pour le maillot, quoi. Ouais. Voilà, parce que là, aujourd'hui, on n'a rien, je vous le dis. Hein.
Merci Mathieu d'avoir été avec nous.
Merci les gars.
Bonne soirée,
merci.
Mathieu.
Tiens, on va écouter Thierry Henry en direct, il est en ce moment même en conférence de presse. On rappelle défaite 3-0 de Monaco au Groupama Stadium ce soir à Lyon.
Le son
est pas bon. Jérôme Thomas suit tout ça pour nous. On vous donnera le best-of de cette conf de presse de Thierry Henry. On va accueillir Mohamed, autre supporter de l'ASM qui est avec nous au 32-16 et dans l'after. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir équipe, bonsoir Daniel.
Bonsoir Mohamed.
Bonsoir tout le monde.
Alors Mohamed.
Oui.
Qu'est-ce que t'en penses toi d'Henry alors à Monaco là?
Ben en fait, on va essayer de relever le niveau en parlant tactique un peu. Ça va plaire peut-être à Daniel Riolo. Mais j'avais vu une fois, il avait parlé dans une de ses émissions, que ce que proposait Thierry Henry lui plaisait dans le sens où Thierry Henry essayait de jouer au ballon malgré la position de son équipe. C'était pas des longs parpaings, c'était pas... En fait, ce qui me donne un peu d'espoir avec Thierry Henry, c'est qu'on voit qu'il a une philosophie de jeu, qu'il a une pensée de jeu.
Pas aujourd'hui.
Il n'a pas les joueurs pour, tu peux pas faire grand-chose avec Radji, tu peux pas faire grand-chose avec Jemerson, dans la relance, même avec Glick, hein, dans la relance du ballon, tu ne peux pas. Et en fait, la seule chose, je n'attends rien de Henry cette année, soyons clairs, Henry est là en tant que sapeur-pompier. C'est peut-être pas le bon costume pour lui, peut-être, mais si on est là à attendre que Henry fasse de Monaco du Guardiola bis, on va tous se tromper. Ce que j'attends vraiment de lui, c'est on voit par moments, il y a des matchs où il passe totalement à côté, comme ce soir, comme contre Reims, où il s'était totalement planté, où les joueurs n'étaient pas du tout dedans. Mais on voit aussi de bonnes choses, que ce soit contre l'Atlético, où ils n'ont pas été ridicules, que ce soit pendant 60 minutes contre Montpellier. On voit certaines choses qui sont intéressantes. On voit peut-être pas une philosophie, mais on voit qu'il essaie de jouer à rater, de jouer toujours avec une relance, de passer par les centraux pour voir avec les latéraux, pour pouvoir jouer avec le milieu. Il essaie de faire jouer Tielemans. Donc on voit qu'il a une philosophie, qu'il a une idée de jeu. Malheureusement, il n'a peut-être pas les bons joueurs pour et que je pense que la sauvegarde, le sauvetage de Monaco passera par un mercato intelligent. Peut-être pas avec des Balmont, comme disait l'auditeur avant, parce que je ne sais pas si tu vas quelque part avec Balmont.
Non, il disait ce style de joueur, pas Balmont lui-même.
Oui, mais aujourd'hui, quel type de... Moi, je serais plus pour un recrutement comme l'a fait le PSG au début de l'ère KSI. C'est-à-dire prendre des joueurs qui ne sont plus titulaires indiscutables dans leur club, comme l'était Alex, comme l'était Maxwell, comme l'était Thiago Motta, mais qui sont des joueurs d'expérience, qui connaissent, qui ont un niveau et qui peuvent apporter une plus-value.
Ouais, mais l'objectif n'était pas le même, Mohamed. À l'époque, le PSG veut jouer le top. Là, Monaco doit jouer le maintien.
Il va falloir leur donner envie.
Ouais, bah ouais.
En fait, c'est de ce type de joueur, c'est-à-dire ne pas chercher forcément quelqu'un qui veut.
Ouais, falloir aller séduire les mecs. Hein.
Ah ouais, parce que là.
Qu'à l'époque, en fait, le recrutement avait été fait l'hiver en anticipation de l'été. C'était venez maintenant, mais en fait, on est déjà dans la saison d'après.
Tu donnais un peu du lourd aussi. Dernier, quoi.
Et puis t'avais envoyé du très lourd. Là.
Et puis t'avais un monsieur qui faisait ça. C'était Leonardo.
C'était Leonardo qui a fait jouer les relations et tout. Là, qui tu vas faire venir là? Qui tu vas aller chercher? Il faut juste finir la saison en te sauvant le plus vite possible.
Mais moi honnêtement, je veux pas être pessimiste et j'espère que t'as raison. Mais pour l'instant, les principes de jeu inculqués par Thierry Henry, moi honnêtement, j'en ai pas vu. Hein. Tout ce que tu me dis là, ce sont des choses simples que toutes les équipes de Ligue 1 font.
En fait, pourquoi il dit ça, Mohamed?
C'est ce qu'on attend d'Henry.
Non.
Quand il est arrivé, c'est ce qu'il disait. Mais pour l'instant, là, moi, je l'ai pas vu.
Je vais t'expliquer. Quand il fait référence à une chronique que j'avais fait un soir dans Footissime. Henry avait joué. Exactement. À ce moment-là, on en était à 7 matchs. Mm-hmm. Et quand tu regardais les 7 matchs, si t'enlevais celui contre le PSG, il y avait à chaque fois
même dans les matchs qu'ils avaient perdus, soit ils avaient plus de possession, soit ils avaient plus de passes réussies, soit ils avaient plus. Bon, on avait le sentiment qu'il y avait une volonté, non pas de jouer justement comme je te disais tout à l'heure, comme une petite équipe qui attend en bas et qui essaye de profiter d'un contre, mais qui essayait d'imposer quelque chose. Mmh. Le problème, c'est que sur les derniers matchs, ils ont à l'inverse, et c'est ça qui est paradoxal, c'est ils ont gagné des matchs un peu à l'arrache comme contre Amiens ou non, ils les ont gagnés en marquant, en subissant, en prenant un rouge par-ci par-là, en gros en les terminant à l'arrache. Mmh. Donc plutôt comme une petite équipe. Donc en fait, il a démarré avec effectivement une idée, mais ça veut pas dire que avoir l'idée après tu le vois concrètement, mais tu sentais que son idée était pas de vouloir mettre tout le monde derrière comme je sais pas une petite équipe qui doit se sauver dans un championnat. Est-ce que maintenant il va falloir qu'il change et que c'est autrement qu'il va devoir faire ? Ça je sais pas, en fait, je sais pas où il est. C'est pour ça la grande difficulté d'Henry, c'est il est le cul entre deux chaises sur tout ça parce qu'il a pas non plus les joueurs pour jouer de cette façon-là. Mais c'est pour il n'a pas les joueurs chercher... pour mettre tout le monde derrière.
C'est pour ça que d'aller chercher des joueurs style, comme tu disais, Thiago Motta, Alex et tout ça, c'est pas des mecs qui sont habitués à jouer le maintien non plus, hein, Mohamed. Hein. Tu vois, il faut des mecs qui sont habitués à ça.
Non, la situation, elle est pas simple entre les mecs à prendre, la façon dont tu veux faire jouer ton équipe. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, dire tu vas jouer avec un peu d'ambition dans le jeu et tout, vu le retard, parce que ça se travaille. Et c'est beaucoup plus facile de mettre un schéma tactique défensif.
Sur la solidité de cette équipe, pour l'instant, déjà, il faut que tu retrouves ça en premier. Voilà. Tu peux pas, sinon.
C'est plus facile de mettre en place un schéma défensif qu'offensif. Parce que si tu as pas travaillé tous les automatismes, si t'as pas bossé là-dessus,
tu vas jouer, mais tu vas t'en prendre un ou deux.
Exactement.
Ça va remettre tout exactement. En question.
Vas-y, Mohamed. Vas-y.
Vous parliez en fait tout à l'heure de joueurs qu'on peut prendre. Par exemple, il y a un Christensen, je crois, de Chelsea, par exemple, qui est un bon défenseur, qui pourrait être une option. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est vraiment la défense. Quand vous regardez aujourd'hui, regardez par exemple le but de Fekir. Jamerson, où est-il? Il n'est pas du tout sur son joueur et c'est vraiment la défense qui est à chercher. Alors, je ne dis pas qu'il faut chercher un compagnie ou autre, bien évidemment. On n'a pas ni les moyens, ni l'ambition. Mais des joueurs, par exemple, comme un Christensen de Chelsea, qui n'est plus dans la feuille pour Sarri ou autre, c'est peut-être ce type de joueur-là, en fait, qui est une possibilité.
Ça, je sais pas, ça, nous, on fait pas le mercato, on peut pas savoir ça, tu vois.
Oui, non, mais je veux dire, c'est un nom qui me venait dans l'esprit. Mais vraiment, comme tu disais, Daniel, c'est de travailler la défense. Aujourd'hui, le problème, de toute équipe, c'est la défense. Et quand on voit les Radji, quand on voit Jamerson qui n'y est plus, on n'a pas d'arrière gauche, on a un Barreca qui est blessé ou qui n'est pas blessé, qui va partir, qui va rester, on ne sait pas. Henrich qui est tout seul sur son côté droit. Et c'est vraiment la défense. Ensuite,
puisque tu es en train de citer les joueurs, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez vous faire l'évaluation de ce Lyon-Monaco?
Bien sûr.
Alors,
il faut.
Qui vous mettez Cador de ce match?
Moi j'aurais bien mis Aouar qui a fait un bon match.
Aouar. En ce moment on l'aime bien, on en parle.
Ouais, ouais,
on y va. Match. Aouar. Qui est le pied carré de ce Lyon-Monaco?
Chadli.
Qui?
Chadli.
Ouais, le problème c'est que tu peux en mettre un paquet.
Jamerson, non, aussi.
Ouais, Jamerson. Jamerson, c'est un
Radji en pied carré quand il a essayé de faire des centres.
Un Golovin qui réussit rien et qui en plus met ce coup complètement,
ouais, Golovin, complètement
idiot à la 45e et 2 secondes là. Ça peut être aussi un.
On y va pour Golovin. Le taulier de ce match.
Le taulier?
Ouais, c'est dans un match comme ça, c'est
ça Fekir, du coup.
Mais Fekir quoi, comme ça tu as le deuxième mais.
Et le Casper.
Il manque.
Tiellement de Falcao, il a pas eu un ballon. Hein. Ouais, il a fait un tir dans le match. Non,
mais Falcao, il a pas eu un ballon, pas parce qu'il est caché, parce que personne lui donne.
Moi, je mettrais
mais quand il l'a, franchement, il me fait de la peine, Falcao, parce que Falcao, quand il a le ballon, je suis désolé, tu vois toujours que c'est un top.
C'est un bon
moi, il me fait presque de la peine. Je le mettrais vraiment pas là-dedans. Vraiment, j'ai pas envie de le mettre.
Radji, on le voit pour le coup. Pas pour les bonnes raisons, mais.
Ouais, tu le vois pas pour les bonnes raisons.
Qui tu veux.
Ouais, c'est bon.
En fait, les seuls bons joueurs à Monaco, c'était Benaglio et Pelé.
Ouais, c'est vrai qu'on a vu Benaglio finalement fait un bon match. Hein. C'est ce qui est inquiétant pour Monaco quand même, hein, de faire 3-0. Merci Mohamed d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée,
merci.
À bientôt Mohamed.
On peut mettre Monaco tout simplement, le Casper. Hein.
Et ben on met Monaco.
Le collectif, monégasque surtout.
Et ben on met Monaco. Dans quelques instants, on va revenir sur la victoire de Lille 3-2 à Nîmes cet après-midi. Lille qui a longtemps joué à 10 contre 11. Lille qui est deuxième de Ligue 1 à l'issue de cette 18e journée. On vous attend au 32-16, supporters du LOSC, supporters des Crocodiles, avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, on vous rappelle que Lyon vient de s'imposer 3-0 face à Monaco cet après-midi. Victoire de Lille 3-2 sur la pelouse de Nîmes. Et Nice et Saint-Étienne ont fait match nul. Un but partout pour clore l'analyse de ce Lyon-Monaco. Un petit son, une petite réaction en zone mixte de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL.
On a fait l'entame de match qu'il fallait faire. On a réussi à concrétiser notre domination et mettre le deuxième but. Ensuite, la tâche était plus facile avec l'expulsion de Golovin, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a continué à jouer, on a continué à faire tous les efforts, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc ça, c'est une amélioration par rapport à quelques matchs où on n'avait pas vu ça forcément. C'est pas forcément, parce que quand on a vu leur compo d'équipe, on s'est dit qu'ils étaient venus pour d'abord bien défendre et exploiter quelques contres. Mais je pense que notre entame de match a fait la différence parce qu'on les a fait reculer, on a pressé très haut, on a réussi à marquer très tôt. Et lorsque dans un match comme ça, on arrive à faire sauter le verrou assez tôt, ça facilite les choses.
La réaction de Bruno Genesio, Lyon qui est troisième de Ligue 1 avec 3 points de retard sur Lille, avec un match en moins sur le LOSC également. Le LOSC qui s'est imposé 3-2 à Nîmes. Premier buteur de ce match, Raphaël Lian à la 4e minute de jeu. Dans la foulée, José Font est exclu, prend un carton rouge après avoir échangé un mot avec l'arbitre assistant. Bamba marque quand même le deuxième but pour le LOSC juste avant la pause. Alioui revient à 2-1. Puis Pépé marque le troisième but de Lille qui aura souffert jusqu'au bout, parce que dans le temps additionnel, Depré marque le dernier but de la rencontre. Victoire 3-2 du LOSC qui est donc deuxième de Ligue 1 avec 5 points d'avance notamment sur Montpellier, et donc c'est 3 points d'avance sur Lyon. Et toi, tu disais que tu as bien aimé ce match, Pierre.
Ah ouais, j'ai adoré ce match, ouais, parce qu'il y a plein de bonnes choses du côté du LOSC. Alors il y a cette puissance offensive qu'on a retrouvée, enfin cette puissance, en tout cas ce talent offensif qu'on a retrouvé. Il y a un match de Bamba qui est très intéressant, il connaît aussi, et puis il y a celui de Pépé qui l'est encore plus. Et puis en face, t'as une équipe nîmoise qui, comme souvent elle a pu le faire, jette toutes ses forces dans la partie jusqu'au bout. À la fin, ils finissent avec quasiment 4 ou 5 attaquants devant pour essayer de changer le cours du match. Voilà, ils sont jamais résignés. Donc ça donne un bon match. Mais moi, j'ai bien aimé aussi la solidité du coup à la fin lilloise qui a tenu. Alors c'était juste, mais ça a tenu. J'aime bien l'état d'esprit de cette équipe. Si les trois, on en a déjà parlé très très souvent ici, mais si les trois de devant ne pense pas trop vite. Daniel, je crois qu'il en fait partie. Tu penses qu'il y a un risque qu'ils pensent un peu à partir peut-être et à leur futur avant de penser à leur saison. S'ils sont pas comme ça et qu'ils pensent à finir la saison ici comme ils l'ont fait aujourd'hui, je pense que ça peut donner un LOSC qui va se battre avec Lyon et avec peut-être une autre équipe pour le podium. Et encore, je me dis que si Lille et Lyon restent à ce niveau, je sais même pas qui va pouvoir essayer de venir avec eux.
Ça sera peut-être les deux équipes du podium.
Ouais,
Marseille se redresse pas.
C'est un peu en dents de scie, Lille. Mais je pense qu'ils ont souffert physiquement aussi. Ils ont eu une période où physiquement, notamment les trois devant étaient un peu à bout de souffle. Donc peut-être que ce sera comme ça, un petit peu en dents de scie. Mais si à chaque fois que le haut des dents est comme ça.
Comment ils passent le mercato. Ouais. Est-ce qu'ils cèdent à un joueur ou deux ou pas du tout.
Est-ce qu'il garde tout, hein.
Est-ce qu'il décide de continuer comme ça pour accrocher la Ligue des Champions parce que ça permet d'avoir des sous dont a beaucoup besoin Gérard Lopez et de faire la vente à ce moment-là. Pourquoi pas? Très bien. En tout cas, revenir à ce match-là, eux, c'est truc idéal, hein. Ils marquent vite.
Oui, le scénario est idéal.
Le scénario idéal, non, parce que t'as l'exclusion quand même qui vient tôt dans le match. Hein. Non,
bien
oui,
sûr.
Ça, oui. Mais sur le scénario pour jouer
sur le scénario
après,
pour Lille, pour eux, ouais, c'est vraiment parfait, surtout contre ce genre d'équipe qui ferme pas, qui joue avec leur mec de devant. C'était idéal. Bon, ils ont le fait d'être à 10, c'est ce qui leur fait la fin de match où ils ont chaud jusqu'au bout, parce que quand il y a eu le deuxième but qui arrive à la 89-10, et après il y a un peu de temps additionnel, il y a encore une occasion puisque t'as un Nîmois qui ouvre le pied, le ballon va sur la barre. S'il y a 5 minutes de plus, ça peut être vraiment tendu, et on peut terminer avec le nul. Et ça aurait été, je pense, du fait du carton rouge. Pour le reste, non, ils sont, c'est toujours les mêmes qualités qu'on voit chez eux, c'est leur qualité de l'année.
Ils n'ont pas énormément de ballons aujourd'hui, hein, mais c'est le.
Ah non, ils l'ont même pas du tout.
Le scénario le veut, c'est l'idéal pour eux.
Au niveau des occasions, au niveau des tirs, de tout, au niveau stats, ils sont loin derrière.
Manière, quand le trio devant est en forme, là.
Non, c'est pas quand il est en forme. C'est quand il arrive à être efficace.
Ouais, efficace.
Parce qu'il arrive, à être en forme.
Ils avaient pas les jambes. Il y a une série 3-4 matchs.
Ils avaient avoir les jambes, sauf qu'ils faisaient pas la passe quand il fallait, ou le tir, ou le truc quand il fallait.
Des mauvais choix aussi, mais.
Après, être en forme, ça veut dire aussi être efficace. Je sais pas si on peut dire ça aussi.
Non, je te parle de forme physique, juste. Moi, j'ai vu une période plus difficile physiquement pour ces joueurs-là.
Tiens, on parlait de ce fait de match, cette exclusion de José Font à la 16e minute de jeu. Alors, le Portugais s'est adressé à l'arbitre assistant après une touche concédée à Nîmes. Il n'était pas d'accord. Il y a eu un échange de mots et finalement, l'arbitre lui montre le carton rouge. Galtier n'a pas aimé. Il s'est énervé. Il a été envoyé lui aussi en tribune. Explication en conférence de presse de Christophe Galtier suite à cet épisode, justement.
Je crois que José a une parole qui lui échappe, mais comme souvent sur le terrain, quand il a des faits de match, il y a des paroles qui échappent. Le juge de touche l'a prise pour lui. Et ce sont des paroles qui se disent même à l'entraînement. Je ne vais pas vous la sortir ici. J'ai trouvé évidemment sévère. Bon, on me dit qu'il y a une insulte, c'est vrai. Je pense qu'il aurait fallu avoir un peu plus de discernement parce que déjà même la touche, elle n'est même pas nîmoise. Peut-être que l'arbitre a démarré le match un peu plus tard que nous, quoi. Il a voulu faire durer même sur la fin. Et donc, oui, évidemment, je me suis agacé. J'ai attendu que l'arbitre vienne me voir et il n'est jamais venu me voir. Il est venu me voir quand il m'a vu à l'intérieur du terrain pour m'expulser.
Voilà, donc les explications de Christophe Galtier suite à cette exclusion.
Ouais, comme le mot, on sait pas ce que c'est difficile de commenter.
Ouais, c'est sûr. Alors, il sera du coup suspendu pour le prochain match, José Font. Ce sera face.
Alors, tu l'as dit à l'arbitre de douche. Ouais, t'es aveugle ou quoi? Ou tête
non,
de
non,
compte,
non,
t'es aveugle.
Je pense que c'est plus une parole que pareil. Tu peux dire.
Si c'est ouais, t'es aveugle. Et s'il y a une insulte après ou avant. Tiens.
Ouais, non, moi.
Toi, t'es arbitre de touche. Si je te dis t'es aveugle, tu mets le carton, non?
Non,
si je te dis tête de con, t'es aveugle.
Je vous vois.
Là, moins bien quand même. Tu le prends moins bien, non?
Mais je crois même pas que ce soit un truc aussi direct à l'arbitre. Je pense que c'est plus un truc.
Il le regarde quand même. Mais ouais, c'est un geste d'agacement.
Va te faire voir un truc comme
mais
ça, tu vois.
C'est vrai qu'effectivement,
c'est pas ça. Ça va te faut derrière.
Oui,
voilà. Je pense qu'il a dit en français, moi. Bah, pour que l'arbitre comprenne, non?
Les insultes, ça se dit dans la langue maternelle, les insultes.
Tu penses, toi?
Très difficile de dire une insulte.
Alors, ça dit, il est pas du Nord. Remarque s'il a grandi à Pnuffield. Un petit,
fille à machin. Ah,
non, je suis pas d'accord avec toi. Quand t'es dans un pays depuis, que tu parles bien la langue.
Oui, mais si c'est anglais, de dire fuck, ça passe tout seul,
Non, mais moi, je peux dire qu'en Grèce, par exemple,
En Grèce, t'avais appris ça.
Ah oui, bien sûr.
Alors, vas-y, ça donne quoi en Grèce?
Ah non, je vais pas dire, c'est des grossièretés, je vais pas le dire à l'antenne. Déjà qu'il y a un auditeur qui pense que je vulgarise l'after.
Tout de suite, t'avais appris à dire ça à l'arbitre. Toi, t'avais appris en deux minutes dire ça à l'arbitre.
Non, c'est pas que t'apprends pour le dire à l'arbitre, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça fait 6 mois que t'es dans un pays et que tu discutes avec tes camarades qui sont d'ici, enfin du pays en question, tu t'apprends forcément ces mots-là aussi, qui sont dans l'usage courant, comme le dit Christophe Galtier.
Mais t'avais appris 2-3 rudiments de grec. C'est pas une langue simple à apprendre.
Non, mais je comprends le grec, mais
combien de temps? Je pensais que tu n'as pas passé si longtemps que ça, toi, là-bas.
Si, j'ai passé quasiment 3 ans, quoi.
Ah, génial.
Vas-y, mais balance un petit truc, là.
Non, je vais pas te.
Non, mais juste, va te faire voir.
Non, je peux te dire, par exemple. Non, j'ai pas envie de dire.
Non, mais va te faire. Mais c'est en grec. Il t'arrive de le dire en français, on comprend en grec, on comprend rien.
Tiens, vous savez quoi? Vous verrez ça avec, je crois qu'il s'appelait Romain, l'auditeur. Tant pis pour vous, voilà, tac. Romain m'interdit maintenant de dire des vulgarités.
C'est
comme ça. Vous verrez ça avec lui.
On te le demande nous. En grec, personne ne comprend. Vas-y.
Moi, je vous le dis pas.
Oh, putain, le pas le dire.
Non, bien sûr.
Que tu t'en souviens plus.
Okay. Hein. Bien sûr, je m'en souviens.
Bon. Bon, t'es un mytho, tu sais pas.
Si vous voulez.
T'es mytho.
Si vous voulez.
Si vous voulez. Mytho, tu sais pas.
Si vous voulez.
Allez. Dis-le.
Je ne dirai pas. Arrête de faire pour un queue.
Vous verrez ça avec le patron. Vous verrez ça avec Gilbert, qui ce jour-là donnait raison à Romain. Voilà.
La Grèce, le pays de.
Les Grecs. Ah si, les Grecs.
De Corsara.
Alors on accueille Pierre, supporter du LOSC, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pierre.
Bonsoir Daniel, bonsoir Nico et Calimera, Pierrot.
Ah, Calimera, yassas, filemo.
Ah, tu parles grec, Pierre?
Non.
Il a cherché sur Google.
Juste Calimera, parce qu'il est parti en Grèce l'été dernier.
Tu connais pas une ou deux insultes, du coup, en grec?
Non, Escalistopoli, Calimera, et ça s'arrête là, vraiment.
Ça, c'est pas des insultes. Hein.
Non, c'est bonjour, c'est merci. Ça va devenir une insulte bientôt.
Non, il faut pas à l'antenne, faut pas, ce qui paraît, Pierre.
Alors vas-y Pierre, viens, sur le match de ce soir, cette victoire 3-2 à Nîmes.
Soulagé, très content, et je pense qu'on peut maintenant peut-être laisser place à ce résultat, peut-être lors du bilan, le bilan de la première partie de saison. Je pense qu'on finira l'année 2018 à la place où on est actuellement, c'est-à-dire deuxième. Et je sais pas si c'est uniquement dû à nos performances ou si c'est peut-être dû aussi à la faiblesse de la Ligue 1 cette saison, parce qu'il y a Marseille qui est absent. Je pense que Lyon aussi était beaucoup plus concentré sur la Champions League, donc peut-être qu'on a profité de ça. Mais en contraste de ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est quand même super agréable à vivre. Maintenant, est-ce qu'on finira troisième ou deuxième à la fin de saison? Je me suis posé la question, mais moi, je vous pose la question à vous. Si c'est pas Lille qui finit troisième ou Lyon, quelle équipe mérite d'être à notre place aujourd'hui et mériterait d'être à notre place
aujourd'hui, aucune. Allez, peut-être troisième, peut-être un Montpellier qui est costaud aussi, alors dans un autre style, hein, mais qui est costaud aussi. Hein. Ouais, non, mais là aujourd'hui, si on parle au 15 décembre, on est le 15 décembre. Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. Lille nous a offert ce qui était de plus joli quand même par rapport à un Saint-Etienne.
Ils ont eu une période de doute hein, quand même là. Ils ont eu trois semaines, un mois.
Et c'est les trois quatre matchs où je pense que physiquement, ouais, ils ont été dans le trou et que ça s'est beaucoup senti parce qu'ils ont des profils de joueurs devant, notamment où physiquement, quand ils sont pas au top, c'est beaucoup plus dur. Et voilà, ça s'est senti. Mais ils arrivent à revenir. Et vous vous rappellerez il y a 3-4 matchs, vous avez dit ça, le jour où ils reviendront physiquement, vous retrouverez ce trio d'attaque devant.
Bon, alors j'avoue que c'est pas simple, parce qu'en fait, les Grecs n'insultent pas du tout comme nous. Malaka, voilà.
Il y a des on vient nous balancer le Malaka.
Voilà. Il y a des grosses particularités quand même.
Putain, t'en as un mot, toi, je te le dis. Hein. Ouais.
Ah ouais, si je te dis Gamoto Soisu.
Ah, Gamoto, hein.
C'est Gamoto Soisu.
Gamoto Soisu.
Alors en fait, c'est bizarre parce que c'est mais toute ta famille. Ça, c'est pas juste toi. Ça ne t'est pas adressé qu'à toi. C'est toute ta famille.
Ta famille, quoi.
Ouais, c'est tout.
Ils sont très généreux.
Après, ils ont des insultes qui sont super chelous qu'en France, on n'utilise pas. Par exemple, dans la bouche de ta sœur.
Ah, c'est vrai?
Ah, je ne connais pas celle-là.
Et c'est chelou quand même, on ne dit pas ça, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est pas
facile. Chaque pays, c'est intéressant.
Elles sont assez violentes en grec.
Il y a autre chose de plus intéressant en Grèce que ça.
Il y a une insulte en grec qui dit « Je vais me casser la « sur ta tête ».
Alors nous, ça... Bon, ça
c'est pas rapide à dire en même temps. Eh, viens là, attends que je t'insulte.
Alors que B-I-L-F-L-E...
Taspasso topuzzo musto kefalisu.
Ah ouais, là c'est long, effectivement.
Sur le sort, c'est long, tu comprends
pourquoi c'est pas celle-là que j'avais proposé sur Internet. Les mecs, même les insultes,
ils finis l'insulte, t'es dans le temps additionnel. Oh, il y en a une, c'est puzzo kefitis.
Ah oui, ça, ouais.
Ça veut dire quoi?
Ah, ça, je pense. Non, c'est à ce qu'on pense, non?
Donc ça, c'est voleur de...
D'accord. Mais
voleur de tub.
Tu peux le dire tout seul.
C'est chelou comme insulte. Non, t'es un gros voleur de tub, toi.
Voleur de tub.
Et en même temps, quand tu dois traduire certaines insultes en français, je pense que ça doit être aussi marrant.
C'est une insulte qui veut dire en gros quand tu dis à un mec que c'est une enflure, quoi.
Bah oui.
C'est un voleur de
tub. Tu peux pas faire du mot à mot sur les là-dessus.
Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre à quoi ça correspond.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est bizarre.
C'est marrant.
Pierre, tu voulais rajouter quelque chose à ce débat?
Ouais, de plus intéressant.
par rapport aux insultes en grec ou par rapport à l'autre?
Bah oui, là on est en plein dedans. Donc
Non,
vraiment par rapport à Lille, moi ce qui me fait peur c'est le mercato qui va arriver. Je pense que on avait rendez-vous avec la DNCG, je crois, cette semaine. Ça a été reporté parce que les garanties n'ont pas été.
Alors, tu sais qu'on a eu des échos aussi.
Ouais, il a raison, Pierre.
Ça, en revanche, c'est beaucoup moins marrant pour le LOSC, effectivement. Les échos qu'on a, ils sont pas forcément très positifs. Hein,
ouais, c'est pas un vrai effet pour t'obliger à vendre quelqu'un.
Je pense qu'on va se diriger vers une vente de Thiago Mendes cet hiver. Ça me semble.
Il a été énorme, Pierre. Il a été énorme, là aussi. On n'en a pas parlé,
ouais,
c'est
mais
vrai.
Je pense pas qu'on va le garder. Même lui, je le sens partant. Et ce qui me fait peur, c'est pour l'année prochaine, si jamais on arrive à accrocher cette place de podium, signée de qualification pour la Champions League.
Mm-hmm. Je pense qu'il s'en fout. Hein, il prend les 20 millions de la participation. Après, tu fais chapeau 4, quatrième du groupe, et c'est très bien.
Ouais, mais moi, c'est ça. Ça me va.
Ah, mais n'espère pas autre chose, hein. Pas déconner non plus.
On avait perdu 3-1 contre le Batey Borisov. On avait été un petit peu la honte du football français.
Le projet n'est pas de briller en Ligue des Champions, c'est d'y aller. Hein.
Ouais, mais alors là, quelle est l'utilité?
L'utilité, c'est 20 millions, mon vieux.
Ouais, et puis pas que 20 millions, c'est que ça veut dire que tu auras vendu des joueurs aussi qui seront plus là.
Pierre a raison. Déjà, tu en auras vendu cet été parce que c'est des joueurs qui t'ont permis d'aller en Ligue des Champions.
C'est une belle vitrine.
Et après, tu redémarres, tu l'as fait, tu fais tes matchs de poule. Et tu rajoutes un chèque de 20 millions.
Et c'est une vitrine pour tes joueurs à nouveau en plus.
Après, ce que tu peux espérer de mieux.
Après, recruteurs qui sont bons. Voilà. Cet été, tu rhabilles ton équipe correctement.
Ce que tu peux espérer de mieux, c'est peut-être pas que tu figures.
Et tu gagnes un ou deux matchs
en haut de ta poule en Ligue des Champions. Mais voilà, tu figures bien quand même. Voilà. Tu rattrapes une Europa League. Tu te fais une année de transition comme ça pour t'installer dans le haut du classement en France et voilà bien figurer en Ligue des Champions ou en Europa League.
Non, mais ça devient avec
un peu plus long.
Bravo Pierre. Toi, t'es pas du tout un puzzo keftis.
Tu continues. Pierre, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Bonne soirée.
Kelftis.
Calimera.
Ciao, Calimera. Ouais.
Je vois pas ce que tu dis, Lionel.
Poutso Kelftis.
Je peux pas t'aider.
Ouais, je m'en rappelle.
On va écouter Bernard Blacquart, l'entraîneur de Nîmes, sur Nicolas Pépé. Alors Pépé, il en a 12 buts cette saison, meilleur buteur, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Emiliano Sala et avec Kylian Mbappé. Très élogieux, Bernard Blacquart, envers l'attaquant du LOSC.
Après Neymar et Mbappé, vous citez qui comme troisième attaquant de Ligue 1? Moi, c'est le nom qui me vient tout de suite, et peut-être pas si loin que ça, même des deux premiers. Bon, le mec, il a 11 buts, il est à quoi, 6 passes D, 11 ou 12 buts, 6 passes D, 12 buts, 6 passes D, donc c'est pas mal.
Vous êtes d'accord avec lui? Il cite pas Cavani, par exemple. Hein.
Bah, quand oui, c'est vrai qu'il y a Cavani.
Non, il faut un peu se calmer quand même.
Ouais, il y a Cavani. Il a dû
oublier. Il fait une très bonne saison, ce sera bien. Ouais, bien sûr.
Non, mais quand tu réfléchis, c'est pas si. Alors, il a oublié Cavani, c'est vrai.
Il faut juste les mecs, c'est très bien. Là, on parle
un
de Tauvin, la Ligue
qui marque beaucoup aussi.
On parle
peut-être
de la Ligue 1. Pour moi, il partira et on verra ce qu'il fera à l'étranger. Il a l'air d'avoir de belles capacités. Oui. Mmh. Mais après, tu sais.
Oui, bah ça, on sait jamais à l'avance.
Voilà.
Non, mais quand il est en forme comme ça, c'est vrai qu'il a des vraies qualités. Ouais. C'est tout.
Et puis dire pas si loin de Neymar et Mbappé, je dirais pas si loin.
Je dis, mais je pense qu'il parle de
en chiffre.
Il parle qu'au niveau comptable.
Ah oui, parce que
pense,
sinon, hein. Le pas si loin, tu vois. Ouais, c'est,
il y a pas si loin, il est à Lille, un Lille Paris.
Il y a quand même un
TGV.
Oui, si tu veux, la Terre de Mars.
Tu me donneras ton TGV pour une heure à Lille.
La Terre par rapport à Mars, c'est pas si loin, tu vois.
Lille,
Paris. Je crois que j'avais dit Nîmes.
Ça dépend. Dans la galaxie, les planètes, il y en a qui sont plus ou moins proches les unes des autres.
Voilà. Supporter de Nice, supporter de Saint-Étienne, on vous attend au 32-16. Dans quelques instants, on va revenir sur ce match nul entre ces deux équipes. Dionis qui avait marqué le premier, égalisation de Cyprien sur Péno en fin de match. Et là aussi, il y a eu des exclus. Voilà, un carton rouge de chaque côté dans ce match. Tous les matchs de ce dimanche, il y a eu des rouges. Voilà. On vous rappelle les autres résultats de ce dimanche d'ailleurs. Victoire de Lille, donc 3-2 à Nîmes. Et puis victoire de Lyon 3-0 face à Monaco. Deuxième Lille au classement devant Lyon, justement. On vous dit à tout de suite, supporter de Nice et de Saint-Étienne avec Daniel Riolo et Kervu.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Alors sachez que pendant la pause, les cours de grec continuent avec Daniel.
Ah non, mais on décortique, quoi, on essaye de comprendre.
Étymologie des insultes grecques.
On décortique.
C'est l'une des thématiques de cet after. Tu veux toujours pas en lâcher une?
Et je l'ai dit tout à l'heure, Malaka. Vlaka.
Non, Malaka, je te dis.
Ah, Malaka, mais moi je t'ai dit Vlaka.
Malaka, moi on l'a eu sur le hashtag.
J'aime bien ce que ça veut dire.
Tiens, on vous rappelle les résultats de ce soir. Victoire 3-2 de Lille à Nîmes. Victoire 3-0 de Monaco à Lyon. Un partout entre Nice et Saint-Etienne. On va y revenir dans quelques instants sur ce Nice-Saint-Étienne. Je voulais juste une réaction de Thierry Henry en conférence de presse après cette défaite 3-0 à Lyon ce soir. On veut bien parler et essayer de dire les choses, mais il faut regarder le premier but que nous prenons et surtout le deuxième but symbolique de cette rencontre. Gagner sans envie, c'est dur. Bien sûr, il ne faut pas enlever la qualité de Lyon qui a fait son match. Sans envie, il est difficile de gagner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Sans prendre la profondeur, il est difficile de gagner. C'est énervant car nous nous sommes parlé à la mi-temps en se disant qu'on voulait essayer de revenir, mais il y a eu l'exclusion de Golovin. Il faut essayer de mettre ce match de côté.
La deuxième période est meilleure des Monégasques. Alors après Lyon a baissé aussi d'intensité et ils ont bien eu raison de le faire, ça leur suffisait. Mais ça rejoint ce qu'on dit exactement, quoi. Il a senti les mêmes choses.
Et il poursuit, on peut perdre à Lyon mais pas de cette manière, il faut essayer de remonter les bretelles et essayer de se battre car contre Guingamp, ce sera difficile à la maison. Voilà, il y a un match de Coupe de la Ligue face à Lorient pour Monaco et ensuite il y aura ce match, ce sera le dernier avant la trêve face à Guingamp en championnat. Nice-Saint-Étienne, c'était l'autre match de ce dimanche. Saint-Étienne marqué le premier grâce à Dioni. Cinquième but, mine de 1 pour Dioni depuis le début de la saison en Ligue 1. Et puis égalisation de Cyprien à la 81e. À noter que ce match, il y a eu deux exclus. Erel d'abord côté niçois, puis en seconde période, puis 4 minutes après, c'est Poloma qui a été exclu du côté de Nice. Alors Nice qui était privé, du côté de Saint-Étienne plutôt, Poloma. Nice qui était privé de Balotelli, il est blessé. Deux équipes qui étaient égalité de points au coup d'envoi de ce match. Finalement, c'est un match nul qui arrange personne. Hein. Il pouvait mettre la pression sur Lyon en cas de victoire. Vous avez pensé quoi de cette rencontre d'ailleurs, de ce Nice-Saint-Étienne?
Moi, je l'ai réellement pas vu.
Voilà.
Écoute, les Niçois disent avoir des regrets. Oui, je peux comprendre. Ben, évidemment, l'occasion de l'Esmelou, elle est
en fin de match.
Elle est dinguissime parce que bon, elle te donne le bon résultat. Tu ressors avec beaucoup de confiance. Ouais. Nice essaye vraiment des choses. C'est toujours un petit peu pareil. Bon, alors là, pour le coup, Balotelli était pas là, donc il y a l'autre. Parce que à chaque fois, c'est l'un et l'autre qui pose des problèmes. C'est les mecs qui sont capables de faire et les différences et de te plomber une attaque. Il te plombe une occasion où il doit donner quand il faut donner, dribbler quand il est, c'est sûr, c'est pénible. Moi,
Ça fait longtemps qu'on le connaît. Hein. Chaque année, je veux y croire.
Bah parce qu'il a un,
j'ai envie
il
d'en dire du bien.
Le
problème, c'est que je vois pas de progression chez lui. C'est un peu pénible. Enfin bon, effectivement, l'action de Lesmelou peut laisser beaucoup de regrets aux Niçois. Qui, oui, je pense. Je pense pouvait quand même gagner ce match, quoi. Ouais. Mais bon, il reste sur une spirale là maintenant de plusieurs semaines, qui est globalement positive.
Bah oui, alors ça leur fait 8 matchs sans défaite, ça leur fait 3 nuls de suite, quoi. Voilà.
Les contenus, sur la globalité, c'est mieux. Non, je trouve que c'est
les
plus intéressant.
Les contenus de leur dernier match, ouais, beaucoup plus intéressant que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait avant, bien sûr. Oui, là par contre, je peux en parler et je suis d'accord.
Saint-Étienne, en revanche, c'est beaucoup plus instable. Hein.
Ah. Clairement, ouais. Après, bon, toi, t'as dit, Diony, il a mis le but, c'est son cinquième, tu vois, ouais, moi, je veux bien, moi, je trouve que c'est toujours aussi pauvre, techniquement, et forcément, chaque fois, ça me choque un peu.
Mais bon, c'est vrai qu'il se démène. Pour Saint-Étienne.
Oui, lui. Là, mais si, il est quand même, l'attaquant de cette équipe.
Ouais. Enfin, ouais.
Non, mais à l'arrivée, je trouve que c'est plutôt juste comme résultat. Évidemment, je reviens toujours, cette occasion en fin de match peut tout faire basculer, et elle est marquante, mais, sur la globalité, je trouve que c'est assez normal, quoi.
Comment était le petit Attal?
Moi, je l'aime bien, ce joueur.
Ouais, non, moi aussi, je l'adore.
Mais
j'adore.
Il fait un gros match.
Je l'aime bien. Mais comme je pensais aux occasions ratées, lui aussi, il en a une. À un moment, il déborde sur le côté, il rentre, et je sais pas, j'ai essayé de revoir l'action, je sais pas s'il peut, en levant la tête, la donner. Et là aussi, il peut y avoir but, il choisit l'option tout seul dans la frappe dans l'angle fermé. Bon
plus qu'un mauvais choix dans la surface,
ça a des générosités dans ce qu'il fait. Dans
ce match, c'était encore mieux la qualité de ce qu'il pouvait faire.
Il me plaît beaucoup, ce joueur. J'aime bien sa disposition, il est bien.
Voyons ce qu'en pense Tony, supporter des Aiglons, qui nous a appelé au 32-16 et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Tony.
Salut Nico, salut Daniel, salut Pierre.
Bonsoir Tony.
Bon, quelle analyse tu fais de ce match nul là, partout là, face à Saint-Étienne?
Moi j'étais comme vous, je voulais parler de notre problème d'efficacité. Moi je suis comme Daniel, je considère qu'on pouvait gagner ce match au départ. Et c'est un problème récurrent de mauvais choix dans les 30 derniers mètres, quoi. C'est hallucinant. Je sais que Daniel aime bien parler du milieu et du fait que c'est souvent le milieu qui décide du résultat d'un match. Et moi, en général, je suis d'accord avec lui. Mais là, aujourd'hui, au milieu, on les a bouffés. Les mecs, ils étaient soit blessés, soit suspendus. On avait quand même Takabella en face, Takadri. En défense, c'était tout nouveau.
Ouais, c'est vrai que c'était l'occasion pour vous, justement, effectivement, de profiter de tout ça. Ouais.
Bah ouais, c'est ça. Et encore une fois, on a fait 0-0 deux fois avant ce match-là. Et là, on fait un partout. Et on marque sur un péno, quoi, qui est presque généreux. Il bute sur la jambe du défenseur au moment de frapper, c'est un maximum. Mais voilà, on fait toujours le mauvais choix, toujours au dernier moment. Et alors, Lesmelou, c'est l'apothéose. J'adore ce joueur, mais là, il nous a tués. Moi, il m'a tué mon après-midi.
En plus, c'est le genre de choses qu'il sait faire. En plus, quoi, techniquement, il est bon comme joueur. Donc,
non, mais dans cette équipe, là,
c'est fou. Non, mais des fois, tu te demandes ce qui se passe parce qu'il est tout seul. Quoi.
Mais là, franchement, maintenant. Vu comment l'équipe s'est redressée, comment elle essaye de jouer, elle a trouvé le système et tout, il faudrait maintenant que Balotelli se bouge le cul pour vraiment jouer à son niveau.
C'est fini. C'est fini, Daniel.
J'ai dit, il faudrait. Et là, la deuxième partie de saison de Nice, elle pourrait être complètement différente. Parce que si t'as un Balotelli à son niveau, oui, mais bon, comme j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est un peu cassé avec les joueurs, avec ce qu'on entend.
C'est ce qu'il a fait à chaque fois. Une fois que ça commence comme ça, c'est fini. Tu vois, partout où il est passé, ça a été pareil.
Même ce qu'on entend des rapports entre les joueurs, entre certains qui se disent le mec, il se bouge pas, on essaye de lui faire des centres, il bouge pas, et puis lui-même qui dit, bon, les mecs sont pas à mon niveau. Quand on arrive à ce genre d'extrémité dans les rapports, c'est un peu compliqué.
Trouve une solution pour Balotelli, qu'ils prennent quelqu'un d'autre. C'est ce qui pourrait arriver de mieux à Nice.
Mais c'est sûr que s'ils arrivent à avoir un mec devant, qui est juste, allez, je veux pas dire 15, 20, je veux pas aller jusque là, quoi, mais est capable de mettre
10, même 10.
La saison de Nice, elle peut être complètement différente, hein, parce que là, aujourd'hui, bon, ils sont plus forts dans beaucoup de domaines en stats. Et effectivement, ils pouvaient profiter de l'absence de certains mecs en face qui font mal.
Le cas Balotelli, au-delà des résultats, c'est vrai qu'on parle souvent du comportement, etc. Alors, il y a le fameux Intérieur Sport qui est sorti, là, où on voit cette discussion en début de saison avec Vieira. C'est vrai que tu te rends compte quand même que cette saison, le mec, il est resté, mais il avait envie d'autre chose. Il le dit clairement. Hein. Alors, c'est des discussions de vestiaire. Ils sont
filmés. Mais Balotelli, il a toujours envie d'autre chose. C'est le mec, même s'il va une soirée, il a envie d'être dans une autre. Il va dans un resto, il a envie d'être dans un autre resto. Il est dans un club, parce que des grands clubs, je te signale qu'il en a quand même fréquenté. Hein.
Ah, il en a fait quelques-uns.
Il en a fréquenté et il a jamais été content nulle part où il est. C'est un mec qui est
C'est pour ça que je te dis que quand ça commence,
il est pas
ça,
content.
C'est fini avec lui.
Donc, qu'est-ce que tu qu'il soit content à Nice? Et à mon avis, il les prend tous pour des traînes patins, les mecs avec qui il est.
Ouais, sauf que là, c'est un peu lui.
Mais c'est pas normal. Lui, au niveau de l'humilité, tu vois, bon.
Non, mais après, si je peux intervenir là-dessus,
vas-y,
les gars, Bon, certes, Balotelli, moi, j'adorerais qu'il soit à son meilleur niveau, mais en tout cas, s'il le retrouve pas et qu'on considère que c'est mort pour lui, il nous en ferait au mercato d'hiver. Ganago, c'est pas possible. Pour ceux qui ont vu le match, le mec, il a pas réussi à se sortir.
Ah, mais les attaquants, ça court pas les rues, hein, excuse-moi, mais.
Ah, ouais, c'est un enfer, mais.
T'es au courant qu'à Marseille, il cherche depuis longtemps.
Mais moi, même un attaquant pur
du vous avez qu'à vous faire prêter. Constas! T'es chez où, Hervé? Débute, hein.
Attends, il voulait. J'en veux pas. Il voulait parler, attends. Vas-y, vas-y.
Non, mais j'en veux pas de Costas. mais un petit Motiba, là, de Strasbourg. Même pas un attaquant qui casse des briques, juste un mec motivé qui va mettre le pied, la cuisse quand il faut. Moi, ça me suffit, là. Il me faut juste un attaquant.
Tony, merci d'avoir été avec nous.
Merci, les gars.
Voilà, on te souhaite un attaquant pour Noël, alors.
Merci beaucoup.
Voilà. Bonne fête à toi. Salut, Tony.
Bonne fête, salut.
Un petit mot sur Saint-Étienne, les gars, avec Alex, supporter des Verts, qui est en direct avec nous dans l'after. Salut, Alex.
Salut, les gars. Salut à tous.
Salut, Alex.
Bon, comment tu l'as vécu, toi, ce match nul, un partout, alors?
Moi, j'ai trouvé ça frustrant, franchement, notamment à cause du penalty. Enfin, Salibur subit le même genre de faute à Décines, là, lors du derby. L'arbitre bouge pas une oreille. L'arbitre siffle sans consulter le VAR. Je regrette, moi j'ai revu les images à plusieurs reprises. Pour moi, le penalty est très 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 discutable. Donc voilà, je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Même si sur l'ensemble du match, le nul est plutôt logique. Moi, j'ai vraiment ce penalty en travers de la gorge. Et si je peux me permettre, j'ai trouvé Daniel un peu sévère avec l'ASS, qui était quand même privé de Cabella, de Casri.
Oui, non, c'est vrai. Si tu prends en compte les absences, effectivement, ça explique peut-être un peu le fait que t'es souvent dominé. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je te parlais de là aujourd'hui. Dire que Nice pouvait espérer mieux, c'est pas t'insulter quand même.
Ouais, non, mais bien sûr. Et puis Nice, voilà, faut reconnaître qu'un joueur comme Attal, on en a pas dans notre effectif. C'est un super joueur, celui-là, j'aimerais bien le voir dans quelques années. Mais moi, vraiment, ce qui me reste en train
dans un couloir de ce genre-là et tout, t'en as un, toi, tu pourrais avoir Debuchy, hein.
Ouais.
Bah, d'ailleurs, tu l'as.
Qui se projette un peu moins, même si, voilà, il nous a fait des.
Ah si, Debuchy, si tu joues à 3 derrière et il prend le couloir droit, il peut largement faire, hein.
C'est pas dans cette position qu'on l'a vu le plus souvent depuis qu'il a 5 ans.
Ça, c'est vrai.
Pourquoi pas? Et puis, ils n'ont pas le même âge non plus. Debuchy, ouais. Il a une super carrière. Attal, sa carrière, elle est encore devant lui, quoi. Mais voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi par rapport à ce penalty, ou c'est moi qui...
Alors, il faut quand même que... Oui, c'est vrai. Mais plus globalement...
Les Stéphanois étaient très frustrés à la fin.
Alors,
du match.
Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a un problème. Là, on devait en parler la semaine dernière. Je ne sais plus pourquoi on n'a plus... Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on n'en avait pas parlé et tout.
Non, mais dans ce match, il y a plein de décisions.
En fait, on n'a pas eu le temps, mais on devait le faire.
Ouais, y a un problème là, aujourd'hui, c'est que... Frédéric Paquet s'est exprimé à ce sujet. Il ne parle pas souvent, on est d'accord.
Saint-Étienne a émis un communiqué d'ailleurs, voilà. Suite aux décisions.
Donc, Saint-Étienne fait partie, pas des clubs, parce que pour l'instant ils sont un peu seuls, je ne sais pas s'ils sont beaucoup suivis, mais ils ne sont pas du tout contents du VAR. Mais vraiment pas.
Non, mais
ils se sont manifestés auprès de la Ligue.
Ils ont pas communiqué.
Pour dire qu'ils étaient pas contents. La Ligue a répondu un peu agacée, genre, mais vous êtes les seuls pas contents. Il y a eu, je crois, récemment.
Il y a eu une réunion en octobre où tous les présidents de club, on dit qu'ils
avaient des ajustements,
mais étaient satisfaits. Voilà.
Globalement, c'était à satisfaction, évidemment, avec amélioration à temps et tout. Mais Saint-Étienne n'est pas content. Et effectivement, pour ce qui est des cas qui les concernent, oui, je comprends qu'ils soient pas super satisfaits. Mais là, on a l'impression que ça s'acharne un petit peu.
La VAR sur un carton rouge, t'as le droit de l'utiliser?
Absolument. Bah ouais, tu vérifies si ouais.
L'expulsion de Salibur, on est d'accord, il fait rien, quoi. Fait rien.
Ben, alors après, on revient à ce qu'on répète à chaque fois, c'est que VAR ou pas VAR, pas Benjamin, ouais. C'est de toute façon l'arbitre qui interprète. Donc oui, si lui décide en voyant les images.
Oui, mais dans le camion,
oui, mais t'as un mec qui prend la décision, c'est l'arbitre de terrain.
Oui, mais dans le camion,
il lui dit il y a erreur manifeste, va regarder, il regarde.
Oui, mais justement, le mec sur le terrain, il va visionner et lui prend la décision.
Il a été visionné là.
Non, il n'est pas allé.
D'accord, OK.
Et c'est ça qui fait que souvent on se dit un problème, c'est que s'il veut pas y aller, soit s'il y va pas, problème. C'est pour ça que le VAR est encore imparfait. Oui, mais à partir du moment où t'es appelé, va voir. Sauf que ce que j'ai noté moi, c'est que
faut y aller, les gars.
Si tu vas voir, ça te met dans une obligation de siffler.
Ah bah là sur le
souvent
rouge.
Souvent c'est le cas. Souvent c'est le cas
sur le rouge. Là.
On en reparlera.
Merci Pierre Ducrot. Merci Daniel Riolo. On vous dit à demain pour l'after. Le RMC Poker Show prend le relais. Restez là tout de suite.
RMC Football Show. L'After Foot.